Bon, bonjour à tous. Je suis Rémi Bonasio. Donc Simon, il m'a présenté très rapidement tout à l'heure. Je me présente encore très rapidement. Je suis tout jeune docteur en sciences de l'éducation. Ça date de la semaine dernière. Pour voilà. Non. J'aurais pas dû. Sinon, je suis prof des écoles. C'est mon métier d'origine. Je suis détaché à l'université actuellement. Voilà, je suis en contrat d'ATER, en fait. Je suis chargé de cours. Et voilà, pour ce qui est de me présenter. Alors, ce que je vais tenter de vous présenter là, c'est une recherche-intervention à la croisée des espaces éducatifs, à travers une pratique qui a été investiguée, qui est la pratique des devoirs, mais c'est pas tant ça qui va nous intéresser aujourd'hui que finalement l'utilisation de la vidéo dans le cadre de cette recherche-intervention. Donc, je vais faire une intervention, je vais essayer de la faire relativement brève pour qu'on puisse avoir un temps d'échange, mais quand je dis bref, c'est au moins une demi-heure, 40 minutes, et en essayant de prendre du temps pour vous présenter l'objet vidéo sur lequel s'est basée cette recherche. Alors, quelques mots sur la pratique des devoirs, mais encore une fois, il ne s'agit pas de s'appesantir là-dessus, mais c'est important de savoir... comment est-ce que cet objet de travail a été appréhendé pour comprendre les logiques en fait de cette recherche-intervention. Donc d'abord, les devoirs ici envisagés comme une pratique sociale à la croisée des espaces éducatifs, c'était important puisqu'il s'agissait d'un projet alors de recherche, à l'origine un projet de thèse, mais qui à un moment a rencontré en fait une réponse à un appel à projet de l'ADEP, concernant l'égalité des chances et notamment en contexte d'éducation prioritaire. Donc il s'agissait à travers cette recherche de faire un travail plus spécifique sur ce que nous avons dans le contexte de cette recherche appelé complémentarité éducative, en s'intéressant à la fois au travail des enseignants, des parents et des animateurs périscolaires, et de lier cette problématique-là à celle des apprentissages des élèves. Alors pourquoi les devoirs, vous allez me dire, parce que ça fait en général bondir les gens en disant « mais c'est très restrictif ». Ben oui, mais si on se remet dans la perspective de « on analyse l'activité », parce que je me situe là-dedans, et on part des préoccupations des acteurs, on s'est dit que les devoirs étaient finalement une très bonne pratique à investiguer, d'autant plus bonne qu'elle l'était relativement peu. Et puis dans un contexte politique aussi, où ces questions de complémentarité, de continuité, selon comment on veut les appeler, est particulièrement prégnante, alors, et d'un, parce qu'elle apparaît dans la prescription des acteurs, notamment des enseignants, mais qu'en plus elle est traduite dans la loi, je fais référence là à la mise en place des projets éducatifs de territoire depuis maintenant 2 ans. Les devoirs dans le cadre de cette recherche ne sont pas appréhendés au sens commun, c'est-à-dire comme la pratique qui consiste pour les enseignants à donner du travail à faire en dehors de la classe, ça en fait partie, mais plutôt comme l'ont défini certains chercheurs, dont Glassman, comme le travail personnel des élèves, sa réalisation à la fois en classe et en dehors de la classe, et son accompagnement par les acteurs, qu'ils soient parents, qu'ils soient animateurs ou qu'ils soient enseignants. Quelques éléments que vous connaissez, j'imagine, quand même concernant cette pratique, une pratique génératrice de difficultés, une pratique génératrice d'inégalités et en même temps porteuse d'une forte tension, puisque en même temps qu'elle serait génératrice de difficultés, notamment dans les milieux populaires, une pratique extrêmement plébiscitée par ces mêmes publics. Et une tension qui apparaît aussi au sein de l'éducation nationale, vous le savez, une pratique qui, en tout cas dans sa forme écrite à l'école primaire, est interdite, pas dans sa forme orale, et qui en même temps se développe, j'aurais tendance à dire qu'on laisse se développer. Voilà. Donc une tension intéressante pour la recherche et pour l'analyse des pratiques. Et puis, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, une pratique relativement peu étudiée, et encore moins avec une visée explicite de transformation, ce qui est le cas dans le cadre de cette recherche. Il s'agissait se questionner sur en quoi une recherche-intervention pouvait offrir un potentiel pour les acteurs de transformation de cette pratique-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on va démarrer d'entrée par le visionnage de ce qui a été appelé dans cette recherche artefact de vidéo. Je vous donne quelques éléments quand même de contexte, mais très peu, parce que je voudrais que vous visionniez ça pour que vous puissiez vous en imprégner, que voilà, je puisse développer à partir de ça après. Donc, il s'est agi de faire un travail avec là, en l'occurrence, il y a deux études de cas dans ce travail, mais on va rester sur une étude de cas. Là, il s'agit d'une étude de cas qui concerne les devoirs entre la classe et la maison. Donc, il y a trois situations. Je mets de côté les éléments de contexte qui ont permis la réalisation de ce travail. On y reviendra après. Une première situation, en classe. Un enseignant, dans une classe de CE2, un enseignant qui fait travailler les homophones grammaticaux à ses élèves. C'est la vignette de gauche. Qui fait une leçon, un exercice d'application, et qui ensuite va donner des devoirs concernant ces mêmes homophones grammaticaux. Ces devoirs vont être réalisés par un des élèves de la classe le soir même à la maison, c'est la deuxième vignette, donc Mehdi, accompagné de sa mère, et puis le lendemain, ou deux jours après, non le lendemain, en ce qui concerne ce travail-là, le retour des devoirs en classe. Chacune de ces situations a été enregistré d'un point de vue vidéoscopé, un enregistrement vidéo, et suivi d'une séance en autoconfrontation avec les acteurs. Donc là, en l'occurrence, l'enseignant et la mère d'élève. En ce qui concerne l'enfant, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ce que nous allons maintenant visionner, c'est un montage qui fait apparaître des extraits typiques de ces situations et qui fait alterner des moments d'enregistrement de la situation, mais également des moments des séances en autoconfrontation sur le même principe que ce qui apparaît dans la plateforme Neopass Action. D'accord ? Voilà, ça dure environ 10 minutes. Alors ce que je vais vous demander, c'est d'essayer, en le visionnant, de prendre le point de vue des enseignants, parce que ces artefacts vidéo ont été visionnés par des enseignants, des parents et des animateurs, mais je vais plutôt là m'apesantir sur la question des enseignants. Donc je vous demande de visionner, de vous dire, voilà, si vous étiez, alors certains j'imagine l'ont été, voilà, peut-être nombreux ici, essayez de vous mettre dans la peau d'un enseignant, qu'est-ce qu'il peut se dire en regardant ce montage vidéo. J'en dis pas plus. Quelques éléments concernant la logique, la démarche de recherche-conception. Donc, dans cette recherche, je me suis inspiré d'un schéma préexistant, peut-être qui vous a été présenté hier, alors même si le schéma vous a pas été présenté, en tout cas la logique vous a certainement été présentée, issu du programme du cours d'action et de la conception qui a prévalu notamment dans le cadre de la plateforme Neopass. Donc, il s'agit de conduire une recherche en plusieurs étapes, mais y compris de l'appréhender de manière circulaire, itérative. Et donc ce que je vous présente là aujourd'hui, c'est vraiment dans cette conception là, c'est-à-dire je viens pas vous présenter une recherche qui serait entre guillemets aboutie et figée, mais je viens aussi vous la présenter par rapport à ce qu'elle offre comme perspective, comme limite aussi, enfin voilà. Donc on est bien dans cette dynamique là. Donc trois étapes principales, la première qui est l'analyse de l'activité lors des situations de travail, donc c'est le fruit des données que vous avez pu voir là, plus une analyse derrière, je vous donnerai quelques éléments, qui conduisent à la conception d'un environnement de formation, que je détaillerai aussi, et dans lequel l'activité des formés, donc en l'occurrence là, il s'agit des enseignants, des animateurs et des parents, mais on va plutôt se focaliser sur les parents. Cette activité est analysée pour, et ce sont les flèches du bas, d'une part, pouvoir revenir sur la question de la conception, mais aussi pouvoir revenir sur l'analyse première, en fait, de ces situations. On verra pourquoi aussi. Il y a eu quelques questions de recherche et de conception donc qui ont été les suivantes, de se demander, alors, les deux premières ont vraiment trait à la question des devoirs, on se focalisera plutôt sur les autres. Quel est le potentiel d'apprentissage de l'activité collective pour les enfants? Comment les adultes articulent-ils leur activité alors même que ces activités se déroulent dans des espaces-temps qui sont différenciés? Quels pourraient être les enjeux d'un environnement de formation centré sur la pratique des devoirs? En quoi cet environnement de formation peut-il permettre ou non à des acteurs de s'approprier les dimensions collectives de l'activité? J'explique juste après ce que peuvent être ces dimensions collectives. Et enfin aussi, en quoi l'environnement de formation peut-il offrir un potentiel de transformation pour cette activité individuelle et collective? Potentiel de transformation dans le sens d'un gain de viabilité pour les acteurs, qui semblent ne pas forcément très bien vivre ces situations-là, mais également un gain d'efficacité, on pourrait dire, pour ce qui est des apprentissages des enfants. Alors concernant l'étude de cas initiale qui a donné lieu à la conception de cet artefact vidéo, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, trois situations qui sont traversées toutes les trois par un même enfant, là, en l'occurrence Mehdi, même si dans la classe on le voit pas énormément. Un objet de savoir, les homophones grammaticaux, et puis des objets techniques aussi qui circulent, le cahier de texte, le cahier de leçon, alors qui lui ne circule pas pour le coup, des exercices, etc. Donc les adultes, analyse de leur activité à travers des enregistrements vidéoscopés, séances en autoconfrontation, et l'enfant, des photographies, des traces de son activité, qui apparaissent très peu dans ces artefacts, c'est une des limites des artefacts qui sont proposés là, mais également un entretien complémentaire qui est expérimenté, mais je ne développe pas ici. Alors, rapidement aussi, pour qu'on en vienne vraiment aux aspects de la vidéo, il est important pour comprendre mon propos de voir un petit peu comment ce que j'appelle ou ce qu'on appelle dans ce cadre activité collective a été appréhendé. Parce que ça peut vous paraître un peu étonnant qu'on appelle activité collective des situations qui sont complètement déconnectées. Alors, pour l'appréhender d'un point de vue collectif, on essaie de voir ce qui, dans ces deux situations, pouvait être relié. Donc, qu'est-ce qui fait le lien entre ces deux situations? On appelle ça des interfaces. C'est l'enfant, déjà. L'enfant, il fait l'objet de construction de signification dans les deux espaces. D'accord? Il est, de la part des, là, de la mère d'élève et de l'enseignant, les objets aussi qui circulent. Et c'est comme ça qu'on arrive à relier, d'une certaine manière, l'activité des adultes. D'accord? Donc indirectement, on pourrait dire, même si vous me direz, il y a plein de situations qui font qu'à des moments, ils se croisent aussi, ces adultes. Oui, mais dans le cadre de cette recherche, en l'occurrence, c'est pas ces situations-là qu'on s'intéresse, c'est vraiment celle des devoirs où, finalement, les acteurs se croisent relativement peu. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'activité en classe qu'on a pu voir? C'est bon, Mehdi ne s'approprie très peu la leçon. Là, on a un exemple d'un exercice qu'il a réalisé. On a des éléments de convergence de l'activité de l'enseignant et de l'élève sur les aspects formels du travail qui fait que ça fonctionne, quoi. Ils arrivent à identifier tous les deux la fonction d'une consigne, le fait qu'il faut se mettre au travail, le fait qu'il faut copier une leçon, mais plutôt divergence pour ce qui est de mobiliser la leçon au moment de faire l'exercice, en fait. Et puis sur le contenu même de la leçon. Voilà. On en a conclu une situation au faible potentiel d'apprentissage. À la maison, on a une mobilisation de règles grammaticales particulières de la part de Mehdi, donc là on a son travail. Ce qu'on a réussi à voir, c'est que Mehdi, ça paraît pas dans la vidéo, là il a presque tout juste, si vous le voyez, mais en fait il utilise une procédure particulière qui est d'écrire ONT quand le mot qui précède se termine par un S, en fait. Et là ça marche, y compris avec Pierre et Jacques, si on voit bien. Et il utilise aussi une autre procédure, il écrit des pronoms personnels, et ça on a pu voir que c'est sa mère qui il fait ça un peu par mimétisme, en fait. C'est sa mère à un moment qui évoque cette technique-là, parce qu'elle essaye, en fait, elle écrit les pronoms personnels, certainement pour se remémorer la table de conjugaison de l'auxiliaire avoir. Et finalement, il reproduit ça, mais sans le maîtriser. Voilà. Donc, il fait cohabiter ces deux procédures. On voit là aussi qu'il y a une convergence entre l'élève, entre Mehdi et sa mère. Lui, il est en attente d'une correction et d'une aide, et sa mère, elle est en forte attente de pouvoir l'aider et corriger son travail. Et puis, un partage partiel du référentiel, là, comme je l'ai dit. Il y a une forme même de transmission, on pourrait dire. Et pareil, une situation au fait potentiel d'apprentissage. Pour ce qui est de relier les deux acteurs, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On a une difficulté qui s'exprime chez les acteurs, alors on le voit chez la mère d'élève, qui est, vu qu'on est dans une activité collective, qui n'est pas appréhendée uniquement en termes de déficit, on va dire, culturel, familial, c'est pas du tout ça l'idée, c'est de dire que tout ça, ça se construit dans cette activité collective, en fait, d'accord? Donc on peut dire finalement qu'une des raisons de la difficulté de la mère, au-delà du fait qu'elle a envie d'aider et qu'elle a des difficultés pour le faire, c'est le fait que les apprentissages en classe ont été relativement peu faits. D'accord? Et donc on en a conclu là au fait qu'il y avait une forte influence finalement du travail de l'enseignant sur celui de la mère d'élève. Mais que tout ça, finalement, échappait grandement à leur conscience. En tout cas, dans les séances, dans les observations et dans les autoconfrontations, ces aspects-là n'ont pas été évoqués. Voilà. Ou très très peu. Mais on a quand même pu voir qu'il y avait des éléments d'une culture partagée. Cette culture partagée ne garantit absolument pas la réussite de l'élève, mais il y avait des choses qui peut-être expliquer le fait que cette activité fonctionne, entre guillemets, en tout cas qu'elle a un potentiel de viabilité pour les acteurs qui font qu'ils la prolongent, notamment le fait qu'ils se sont appropriés, ces deux acteurs, la forme scolaire, y compris cette mère d'élève qui identifie la fonction d'une consigne, qui identifie le fait que une leçon, ça va avec un exercice, et puis aussi qui est habité par le fait de vouloir réussir son fils. Voilà, mais je passe très rapidement là-dessus. Ça, c'est peut-être un peu frustrant, mais c'est vraiment pour en arriver au cœur du sujet. Donc, la conception d'un environnement de formation. Donc, dans le cadre qui était le nôtre, celui de l'analyse de l'activité, dans un programme particulier, celui du cours d'action, il s'agissait de se dire que ces données vidéo pouvaient être partiellement restituées aux acteurs pour qu'ils puissent, alors à d'autres acteurs que les acteurs en question. Mais si, bon, éventuellement, je pourrais répondre à des questions tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on a fait de ces acteurs-là. Là, on va parler d'autres acteurs. Un environnement de formation pour permettre aux acteurs de pouvoir mettre au travail des éléments de cette pratique qui, a priori, semble poser problème. Alors, dans cet environnement de formation, l'artefact vidéo que vous avez visionné a été conçu. Et il a été projeté en deux parties. Donc là, vous avez visionné tel qu'un enseignant le visionne. Il s'agissait dans un premier temps de faire visionner l'activité dans l'espace qui leur était le plus familier, pour que ils puissent d'une part s'identifier à pratique visionnée, ou pas d'ailleurs. Donc ils ont été halo-confrontés. Donc on était dans le cadre de l'halo-confrontation, là, en référence aux travaux de Serge Leblanc, dont vous avez entendu parler. L'activité dans l'espace-temps le plus familier et dans un deuxième temps, ils ont été halo-confrontés à l'activité dans l'autre espace. Donc pour ce qui est des parents, par exemple, ils n'ont pas visionné en premier lieu l'activité en classe, mais l'activité dans l'espace familial. Il y a eu plusieurs configurations qui étaient liées aussi à cette recherche et puis à ce que j'en ai dit tout à l'heure sur l'appel à projet de l'ADEP. Donc il y a eu des halo-confrontations individuelles. C'est à celle-ci que je ferai plus allusion tout à l'heure. Il y a eu des halo-confrontations collectives par catégorie d'acteurs. Donc, groupe d'enseignants, groupe de parents et groupe d'animateurs. Et il y a eu des halo-confrontations collectives mélangeant les trois catégories d'acteurs. Alors, pour ce qui est de la troisième forme d'halo-confrontation, elle a systématiquement été précédée de la deuxième forme. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous n'avons pas souhaité mélanger les trois catégories d'acteurs de peur que les asymétries soient trop fortes et que les parents, de leur côté, les animateurs ou les enseignants, puissent s'exprimer relativement librement. À partir de cette analyse-là de l'activité, puis également de ce qu'on a pu lire sur cette pratique, et puis des ancrages aussi du courant dans lequel on s'inscrivait, on a fixé deux enjeux à la conception de cet environnement de formation. Donc le premier enjeu, c'était de permettre aux acteurs de prendre conscience des dimensions collectives de l'activité qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, semblaient leur échapper. Permettre notamment aux enseignants, pour le dire autrement, de prendre conscience que ce qu'ils mettaient en œuvre, ça pouvait avoir de l'impact sur ce qui se faisait dans les autres espaces. Et puis aussi, ça pouvait avoir de l'impact sur la manière dont l'élève s'appropriait son travail personnel. Et puis le deuxième enjeu, c'était celui d'encourager des actions, c'est-à-dire à travers ça de concevoir un espace d'action encouragé. Donc à partir du principe que prendre conscience des niveaux collectifs de l'activité, c'était certainement très bien, mais que c'était certainement aussi insuffisant pour ce qui était de transformer les pratiques éducatives. D'accord ? Donc ça, c'était les deux enjeux. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est en analysant l'activité des formés, c'est arriver à les analyser au vu de ces deux enjeux qui avaient été fixés. Et nous verrons que sur certains enjeux, on pourra pointer les limites, et je vous montrerai aussi à travers les boucles itératives ce qui est proposé pour continuer de concevoir en fait cet environnement de formation. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là avant qu'on rentre là dans l'analyse de l'activité des formés? Oui. Alors, effectivement, là, j'ai passé tous les aspects de contextualisation du travail et qui sont importants en plus là, parce qu'il y a des questions aussi éthiques très très fortes qui se posent. Là, le choix de l'élève, en fait, il s'est fait avec l'enseignant, alors qu'il n'était pas cet enseignant-là. Ça, c'est peut-être un élément important. Au départ, en fait, c'était une enseignante de cette même école avec laquelle on a collaboré, qui était partante, et qui s'est cassé la jambe en faisant du ski, donc qui n'a pas pu reprendre la classe. Et c'est son remplaçant, en fait, qui a pris la relève. Ce qui nous a posé un petit problème au début, en fait, dans la recherche. Et au bout du compte, on s'est dit, c'est pas mal, parce que finalement, on a affaire encore plus à une pratique, entre guillemets, lambda, quoi. C'est-à-dire d'un enseignant qui, au départ, n'était pas forcément la personne qui est venue nous voir parce qu'elle était intéressée par la recherche, mais qui en même temps a dit oui, ça m'intéresse quelque part. Voilà. Donc ça c'est pour l'enseignant. Et c'était avec cette enseignante qu'on avait essayé de trouver un profil d'élève. Alors il y avait deux niveaux. Le premier c'était de dire ben, un élève qui potentiellement ça pouvait l'aider de faire ce travail-là, parce qu'il y avait, il y a eu quand même un souci d'accompagnement de ces acteurs-là. Et puis un élève dont les parents pouvait potentiellement être intéressé par cette recherche, quoi. Voilà. Donc l'enseignante en question nous a dit, un certain nombre de parents, au vu du niveau de conflictualité avec moi, ça paraît compliqué de proposer. Donc on est parti de l'enseignant. Et en fait, la première famille qu'on a rencontrée, c'était celle-ci, fait la mère de Mehdi et Mehdi qui ont accepté. Voilà. Non, pas du tout. Non, non, non. Ça s'est fait en dehors. Alors. Pour ce qui est du projet, parce qu'il y a quand même deux choses un peu en parallèle. Il y avait le projet de thèse initialement conduit, et ensuite, il y a eu l'appel à projet de l'ADEP. Hein, on s'est greffé là-dessus. Pour l'ADEP, on est parti sur un territoire de l'éducation prioritaire dans l'Académie de Toulouse, en fait, mais en dehors de l'école initiale en question, en fait. Voilà. Et là, on a eu la présence de l'IEN, mais une présence très sporadique. Ça va sur le contexte? Donc l'analyse de l'activité des formés. Donc nous allons là en rester à l'analyse de l'activité des enseignants, en regardant ce qu'a pu générer chez eux l'allo-confrontation à ces artefacts-là. Je n'aborderai pas la question des parents et des animateurs, mais je veux bien répondre aux questions tout à l'heure. Alors je ne sais pas ce que vous vous êtes dit tout à l'heure en visionnant l'artefact, en essayant de prendre le point de vue des enseignants, mais vous allez peut-être voir si ça corrobore un petit peu ces éléments-là. La question qui était posée là aux personnes pendant l'allo-confrontation, donc ils étaient face au film, et en cours de visionnage, ils pouvaient arrêter, mais moi aussi, le déroulement du film et dire à ce moment-là ce qu'ils se disaient, ce qu'ils ressentaient, au cours du visionnage. Donc on est sur ce type de verbalisation là, d'accord ? Pas des verbalisations au cours desquelles il aurait été demandé forcément d'aller loin sur la rationalisation, la justification, l'analyse, d'accord ? Même si on a des éléments d'analyse. Ce sont quasiment tous des enseignants proches de l'éducation prioritaire, mais non, pas tous. Mais quasiment. Je le signalerai. La première, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, il s'agit d'un extrait de la verbalisation là d'une enseignante au moment où elle visionne les élèves qui se lèvent et s'amusent au moment de noter les devoirs. Il y a des coquins là-dedans. Il y a des coquins au moment de noter la leçon. Le gars, elle le montre à l'écran, qui sort l'équerre pour en faire un pistolet, puis c'est révélateur, voilà, les devoirs sûrement pas. Moi, c'est pareil. Au moment, à la fin, c'est souvent à la fin. Alors, parfois, on évite. Parfois, il m'arrive d'éluder le truc et de le donner au départ. Parce que, justement, comme ça, au départ, ils sont calmes, ça les pose, ils notent, et ensuite, on fait le travail, et on a un résultat qui est meilleur. Je passe la suite. Une des analyses qu'on peut faire, là, de ce passage-là, c'est de nous dire, bon, d'une part, que l'enseignante se reconnaît dans la situation, donc elle l'identifie comme étant quand même au moins partiellement typique, c'est-à-dire le moment un petit peu difficile là au cours duquel on note les devoirs à la fin du temps de classe, d'accord ? Et elle propose une alternative qu'elle-même met en œuvre, qui nous a semblé particulièrement intéressante à voir si ça intéresse les enseignants, mais en tout cas elle le pose comme étant une alternative. Ben c'est le fait de noter les devoirs au début de la séance. Un autre extrait qui concerne... Alors oui, on est dans la première partie du visionnage, là, donc sur les extraits de la classe. Donc le moment où l'enseignant donne un exercice polycopié. Il est comme ça, l'exercice est comme ça, et le coller, il fallait pas le coller. Je l'aurais fait coller en dessous de la leçon. Il y a la leçon, bon, il a fait son exercice d'application et il donne un petit exercice à faire. Il peut le donner comme ça et vous collez l'exercice dessous. Pareil, donc là on a plutôt... Alors elle se reconnaît pas, là pour le coup, dans sa pratique, mais elle identifie... Dans ce qu'elle dit, un des problèmes liés aux objets, en fait, qui est la distinction matérielle entre la leçon et l'exercice. Ça aussi, il nous a semblé, dans l'analyse, qu'il pouvait s'agir d'une pratique un peu alternative. Le moment de la copie des devoirs, lorsque l'enseignant observe les élèves et qu'il n'intervient pas. Oh, Il y a des enfants, ils notent jamais. Moi, je vérifie les agendas. Moi, j'ai un élève de 6e, même encore maintenant, il passe à mon bureau. Mais il le sait, il doit passer à mon bureau. Il ne peut pas quitter la salle sans... Mais en fait, il n'est pas allé les voir. Mais il sait très bien qu'elle ne note pas. Et c'est pour ça, pardon, pourquoi il ne le fait pas. Parce que quand on connaît les élèves, etc. Bon. Pareil, là, on a, lors de cet extrait, bon, elle compare son activité à celle de, qui est visionnée. Elle ne s'y reconnaît pas forcément, mais elle met en évidence une pratique qui peut paraître comme étant alternative. Enfin, et on en restera là pour la première partie du visionnage. Il s'agit de la photographie, donc des devoirs écrits au tableau par l'enseignant. Une enseignante réagit à ce moment-là. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je fais à peu près 10 exercices par thème que je travaille. Je les écris les 10 dès que je commence. Donc, ils font leurs exercices. Moi, je passe dans les rangs et je corrige. Et après, je vais donner des devoirs et je vais écrire que, par exemple, si je vois que la majorité en a fait 5, ça dépend. J'évalue combien, ils en ont un ou deux. Et il y en a qui ne peuvent n'en avoir aucun. Donc là, pareil, on a l'expression d'un désaccord avec ce que fait l'enseignante, donc elle ne s'y reconnaît pas, et elle met en évidence ce qui lui paraît être, pour elle, une pratique dite alternative, on pourrait dire peut-être plus conséquente que les précédentes qui ont été abordées, plus conséquente dans le sens où ça engage la pédagogie dans la classe. Ce qu'elle met en place, donc elle l'a un peu plus développé dans l'entretien, mais c'est une forme de pédagogie différenciée, en fait, et les devoirs apparaissent comme un prolongement du travail personnel fait en classe, et elle entraîne, elle le dit comme ça, en classe, les élèves à faire leur devoir personnel, leur travail personnel. Alors, c'est pas forcément dans ce sens-là. Elle le pose, alors elle est pas allée forcément aussi loin, mais elle le pose en termes de besoin, c'est-à-dire que chez certains, elle pense que ils n'ont pas besoin de continuer la liste des exercices parce qu'ils maîtrisent, donc elle va leur donner à la limite quelque chose d'autre. C'est ça. Pour certains, elle va estimer que certains élèves ont besoin de refaire un exercice qu'ils ont déjà fait, ou alors d'en refaire des différents, mais un peu dans la même lignée pour renforcer. Voilà, elle le pose comme ça. Donc voilà, les alternatives qui ont été évoquées par les acteurs, ça concerne la conception des objets, l'organisation pédagogique en classe, et également le lien entre les acteurs. J'y reviens tout à l'heure là-dessus. Donc, comment est-ce que ça a été analysé? Alors, tout d'abord, là, je vous ai dit, il s'agit des allo-confrontations individuelles, en fait, hein, les extraits que je vous ai donnés. Mais il y a eu aussi des allo-confrontations dites collectives, où ces alternatives-là ont été évoquées et ont fait l'objet, chez les acteurs, de débats entre eux. D'accord? Donc, on verra tout à l'heure comment ces éléments-là d'alternatives peuvent intégrer éventuellement, pourront intégrer, cette conception, en fait, d'environnement de formation. On est dans la deuxième partie du visionnage, maintenant. Donc, on a toujours en tête les deux enjeux, qui sont le premier, prendre conscience des dimensions collectives de l'activité. Donc, là, pour le coup, on va essayer de voir si c'est le cas. Mais également, d'encourager des actions. Voilà. Verbalisation d'une enseignante lorsque la mère de Mehdi a demandé à son fils de commencer l'exercice sans lui demander de sortir la leçon. Je pense qu'avec les rencontres parents-professeurs, on dit bien aux parents « leçon d'abord, exercice après ». Donc là, elle ne prend pas la main sur son fils, c'est son fils qui prend la main sur elle en fait. Et si elle veut l'aider, il faut que ce soit elle qui prenne la main tout de suite et qui dise « non ». Tu sors d'abord ton cahier. Il faut impulser dans ce sens-là. Le parent, s'il veut s'investir, il faut qu'il applique les conseils donnés. Parce qu'il le dit bien. J'aurais voulu que, mais à aucun moment, elle ne lui dit de le faire. Donc là, on a, dans ce type de verbalisation, si on le prend en termes de conscientisation des enjeux collectifs, on peut se dire que c'est peut-être un peu moyen, ou en tout cas un peu limité. On a une posture relativement prescriptive, de cette enseignante vis-à-vis de la mère d'élève, qui n'est d'ailleurs pas sous ses yeux. En tout cas, elle ne revient pas sur sa propre activité, si ce n'est par le souvenir des rencontres parents-professeurs pour dire que normalement, ça devrait être acquis que les parents fassent puisqu'on leur dit de faire. D'accord ? Autre passage, une enseignante. Lorsque la mère de Mehdi exprime son embarras parce que Mehdi n'a pas son cahier de leçons. Moi, je me fais souvent la réflexion depuis qu'on a eu l'intervention d'une formatrice en mathématiques. Donc là, elle se remémore une situation antérieure de formation, cette enseignante. Cette formatrice de mathématiques, donc, qui a un cahier de mathématiques où elle met les leçons et les exercices. Mais nous, en primaire, on a un cahier qu'on appelle du jour, où on fait aussi bien les mathématiques et le français. Et un autre où on met les leçons, et un autre où on met les devoirs. En fait, au départ, c'est pour limiter la quantité de cahiers. Au final, après, effectivement, on peut se poser la question. Il y a des exercices dans le cahier exercice et dans le cahier leçon. Il y a tous les types de devoirs sur lesquels on met la date pour laquelle c'est à faire, qui n'est pas effectivement avec la leçon. Donc là, on peut se dire qu'en termes de, d'appropriation des dimensions collectives, on a quelque chose de potentiellement intéressant, étant donné qu'elle fait référence donc à l'activité de cette formatrice, qui pour elle vient interroger la conception même des objets, matériellement, hein, les objets leçon et exercice, en classe, et elle mesure que cela peut avoir de l'incidence sur l'espace familial. En tout cas, c'est comme ça que ça a été analysé. Autre extrait, lorsque la mère de Mehdi souhaite corriger l'exercice réalisé par son fils. Une enseignante, elle dit « je vais corriger ». Est-ce que le parent doit forcément corriger ? Je n'en suis pas très sûr. Après qu'elle ait un regard pour voir ce qu'il a fait, oui évidemment, mais pas juste ou faux. Et effectivement, il y a beaucoup de parents qui n'en sont pas capables. Alors cette question de la correction, elle est souvent apparue, donc là elle apparaît comme un désaccord hein, de la part de cette enseignante, et elle est souvent apparue à la fois dans les situations individuelles, mais aussi collectives, et également dans les situations collectives qui réunissaient l'intégralité des acteurs. Il y avait à la fois de la part des enseignants un désaccord sur le fait que les parents puissent dire qu'ils corrigent, et en même temps, une incapacité, on pourrait dire, à dire ce que ça pourrait être d'autre. Donc les autres, quand on leur a demandé qu'est-ce que, alors s'ils corrigent pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils peuvent regarder le travail. Ah. Et est-ce qu'ils peuvent dire si c'est juste ou faux? Oui. Et ça, est-ce que c'est corrigé? Non, pas vraiment. Bon, il y a eu quelque chose là qui nous a semblé être un élément particulièrement important et essentiel concernant non pas la place des parents, parce que ça serait trop large, mais concernant l'activité des parents face à ce travail personnel des élèves en classe et comment est-ce que ça s'articule. À d'autres moments, on a pu voir des allers-retours chez les acteurs entre ces différents espaces. On a appelé ça navigation virtuelle dans le réseau de l'activité collective. Alors, c'est plus flagrant chez les autres acteurs que les enseignants, en fait. Les enseignants, en général, en sont restés à porter un regard sur ce qu'ils voyaient dans l'espace familial ou l'accompagnement à la scolarité, parce qu'il y a une autre étude de cas sur l'accompagnement à la scolarité, sans forcément beaucoup l'articuler à ce qu'ils faisaient en classe. Par contre, les parents et les animateurs font beaucoup plus référence à ce qui se passe dans l'espace classe. Alors, d'une part, parce qu'ils s'y réfèrent, ils se remémorent des situations quand ils étaient eux-mêmes élèves. Voilà, ça c'est relativement prégnant. Mais parce qu'aussi, ils semblent mesurer un petit peu plus ces enjeux collectifs. Bon, que faire de tout ça? Si on se pose la question de « y a-t-il eu conscientisation des dimensions collectives de la part des acteurs dans l'environnement de formation ?» Bon, à travers les éléments que j'ai donnés, on peut montrer ce qu'on pourrait appeler quelques éléments prometteurs par rapport à ça, sur lesquels s'appuyer, le fait que certains acteurs fassent du lien. Mais il nous semble que le type de questionnement de l'intervenant, à ce moment-là, doit sans doute être un petit peu plus travaillé. Il semblerait important et indispensable d'amener les acteurs à beaucoup plus articuler ce qu'ils voient à ce qui se fait dans l'autre espace. Voilà. Là, pour le coup, le type de questionnement, c'était, alors, il s'agissait d'une première expérimentation, entre guillemets, donc il s'agissait de voir ce que pouvaient générer ces artefacts en termes de vécu des acteurs. Bon. Il semble qu'il faille un petit peu plus accompagner ça et les amener peut-être à se poser la question de ces dimensions collectives. Alors, par exemple, dans les préconisations qu'on envisage là pour la suite de cette recherche, c'est lorsque les acteurs, comme l'enseignante là par exemple, portent un jugement sur ce qui se passe dans la famille, ça pourrait être de leur dire qu'est-ce que vous, ça vous fait dire sur ce que vous faites en classe ou sur l'activité en classe que vous avez visionnée, pour de les amener à faire ce lien qui, a priori, ne se fait pas du tout naturellement. Voilà, c'est le type de préconisation éventuelle. Alors, pour ce qui est du deuxième enjeu, qui était d'encourager des actions, peut-on dire que cet environnement de formation a permis aux acteurs de, alors, ce qu'on appelle encourager des actions, c'est-à-dire Là, en l'occurrence, on est dans le cadre d'une formation, donc on n'est pas allé voir si ça avait généré des transformations sur leur terrain respectif. Mais en tout cas, dans la formation, est-ce qu'ils se sont projetés sur de nouvelles pratiques? Est-ce qu'ils ont élaboré de nouveaux scénarios pour eux en voyant ça? La réponse est non. Voilà. Alors là, dans les exemples que je vous ai donnés, c'est pas le cas, mais s'il y en avait, je vous en aurais donné. Donc, la réponse est non. Alors, il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est d'une part que l'artefact vidéo auquel ils ont été confrontés, il est unique. C'est un artefact unique. Donc finalement, il a permis aux acteurs relativement peu de déplacement, on pourrait dire, de leur point de vue, ou en tout cas d'envisager des pratiques différentes, relativement peu. D'accord? Un artefact basé sur une pratique, on pourrait dire, que certains ont identifié comme étant très traditionnel, je mets les guillemets, mais il s'agit des mots des acteurs, dans laquelle ils ne se sont pas forcément reconnus. Donc par contre, si on envisage les suites de cet environnement de formation, et pour pas en rester là, qu'est-ce qui pourrait éventuellement permettre aux acteurs, qu'est-ce qui pourrait encourager chez ces acteurs de nouvelles actions? Alors il nous semble là que les pratiques dites alternatives qui ont été évoquées par les acteurs pourraient faire l'objet, pour le coup, d'une nouvelle analyse, et rentrer dans l'environnement de formation. C'est-à-dire, comme on peut le voir là sur la plateforme Neopass, on n'a jamais une seule situation, on en a plusieurs, hein. Ça serait d'avoir d'autres exemples de pratiques, alors celles qui ont été évoquées là, mais peut-être d'autres aussi, et de confronter les acteurs à cette diversité de pratiques-là. Donc ça pourrait être un enjeu, pour permettre potentiellement aux acteurs d'envisager de nouveaux scénarios pour leur activité. L'autre chose qui a été tentée, mais pour le coup assez peu analysée, en tout cas à ce jour, et qui concerne aussi le fait d'encourager des actions, je vous parlais tout à l'heure des situations collectives parents, enseignants, animateurs qui ont été abordées. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris ces artefacts vidéo et nous les avons amenés à proposer de nouveaux scénarios que nous avons déroulés avec eux lors de la formation. Alors ça pouvait se traduire par « et si il s'était passé cela ?» Donc si, par exemple, l'enseignant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir là ? Si l'enseignant était passé derrière Mehdi au moment où il a fait son exercice individuel, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Mais ce scénario-là, et c'est peut-être la spécificité-là de ce travail, n'en restait pas uniquement à la pratique de classe, on a essayé de le dérouler aussi pour ce qui se serait passé en dehors de la classe. Voilà. Donc, par rapport au cadre, donc on n'est pas dans un cadre de prescription des bonnes pratiques, on est plutôt dans une approche développementale telle que ça vous a été présenté hier. Avec ceci dit, l'idée que toutes les pratiques ne se valent pas, on va dire, dans l'absolu, et que en fonction aussi des contextes, mais aussi des intentions des acteurs, etc. Certaines pratiques pouvaient être d'une part plus viables pour ces derniers, mais également plus efficaces en ce qui concerne les apprentissages. Donc, à partir de là, non, il ne s'agit pas du tout d'identifier la pratique qui pourrait être la pratique à prescrire aux acteurs, mais d'identifier, par rapport à la première pratique qui a été analysée, d'identifier certaines transformations, certaines pratiques, on va dire, qui peuvent apparaître comme alternatives, parce que potentiellement, et on est bien sur du potentiellement vu qu'on n'est pas allé analyser d'autres situations, elles pourraient offrir un gain d'efficacité plus important pour les enfants. Donc, d'un côté, on n'est pas sur la prescription des bonnes pratiques, mais en même temps, on se soucie quand même de la question de l'efficacité. C'est une démarche à laquelle je me reconnais. Par contre, une des surprises, et ça, c'était pas forcément prévu au départ de la recherche. Enfin, ce qui est dit là et formalisé n'était pas forcément ce qui était envisagé au départ. Le fait que les alternatives, elles émergent dans les paroles des acteurs, les potentielles alternatives, faudrait que je le dise comme ça, en tout cas les alternatives du point de vue des acteurs. C'est quelque chose qui est apparu dans le cours de la recherche, en fait. Voilà. Donc l'idée de se dire qu'à partir de ces alternatives-là, on pouvait les réintégrer dans l'environnement de formation, il nous est apparu que finalement ça pouvait être une bonne manière peut-être de réinterroger la notion de bonne pratique. Enfin, il me semble que ce que vous pointez là, c'est aussi une question éthique forte pour la recherche, conception, recherche, intervention, telle que ça a été posé là, et parfois des reproches qui peuvent être faits à des démarches qui se basent sur l'analyse de l'activité, finalement, d'en rester, enfin, comment dire, en voulant partir du principe, qui à mon avis est un principe intéressant, c'est pour ça que je l'adopte, de partir des préoccupations des acteurs, c'est finalement une forme de reproduction finalement, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'au bout de la déconstruction et de dire finalement est-ce qu'il faudrait pas arrêter tout ça. Et alors c'est une vraie question. Et en même temps, alors ça c'est un peu mon parti pris là-dedans, c'est le législateur il a déjà pris position là-dedans. Il a dit, depuis 1956, et puis ça a été répété un certain nombre de fois, que les devoirs généraient des inégalités, et d'un point de vue chronobiologique, c'était pas satisfaisant. C'est ça l'argument qui revient à chaque fois. Et pourtant, ça continue. Donc, si on se pose la question d'un point de vue de la transformation, on se dit, mais soit les gens n'ont rien compris, ce qui n'est pas le cas, parce que les enseignants, la loi, ils la connaissent, et la construction des inégalités, ils connaissent et ils le ressortent tous. Hein. Tous. Oui, je sais, ça provoque des inégalités, etc. Donc tout ça s'intégrait. Donc il y a plutôt un parti pris là de se dire, si on veut générer des transformations, il faut peut-être le prendre par d'autres bouts qui peuvent paraître effectivement des fois minimes, mais peut-être que ces petites transformations-là, les transformations silencieuses, y parle Julien, moi j'aime assez ça, c'est peut-être ça qui, in fine, va pouvoir transformer peut-être d'autres choses et qu'il faut le prendre peut-être sous cet angle-là. Alors effectivement, est-ce que cet environnement de formation permet aux acteurs de dire aussi non, des devoirs, on n'en veut plus ? C'est une question, c'est vrai. Je l'ai toujours laissé ouverte, mais en même temps, est-ce qu'ils se sont permis d'eux, sachant qu'on partait de cette pratique-là, est-ce qu'ils se sont permis de la rejeter complètement ? Peut-être pas.